Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau chapitre de La Grande Librairie, autour ce soir du pouvoir des livres et de l'engagement. À quoi sert, au fond, la littérature? Faut-il prendre la fiction au pied de la lettre? Ou bien est-elle une façon détournée de mieux voir la réalité, de rendre intelligible le monde actuel? Et puis, tiens, pourquoi les livres qui disent le monde réel font-ils si souvent l'objet d'attaques, de censure, de procès, qui sont les formes modernes des autodafés? Pour en parler, eh bien, j'accueille ce soir des romanciers, des poètes, philosophes. Lydie Salvaire, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. Prix Goncourt 2014, Lydie Salvaire, vous revenez avec un livre exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Rêver debout, ode au Don Quichotte de Cervantes, dont vous faites notre contemporain capital, lui qui en son temps passait pour un dingo.
Pour un fou.
Pour un fou.
Un fou.
Il croyait au pouvoir de la fiction et au pouvoir de la littérature. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous qui nous regardez ce soir, il y a dans Don Quichotte une scène glaçante où on jette les romans au feu. Ça s'appelle un auto-da-fé, chapitre 6. Auto-da-fé, eh bien, c'est précisément le titre du nouveau livre de Michel Onfray, le philosophe aux 115 ouvrages traduits en 25 langues. Bonsoir Michel Onfray.
Bonsoir.
Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Comment l'anathème, le refus de la discussion, les attaques personnelles, la calomnie orchestre une nouvelle forme de censure lorsque des livres ébranlent les systèmes et les idéologies dominantes? Vous racontez, Michel Onfray, les procès médiatiques faits à des livres comme L'archipel du goulag de Solzhenitsyn au moment de sa sortie, mais aussi au choc des civilisations de Samuel Huntington ainsi qu'à quelques autres livres qui furent des marqueurs au cours de ces 50 dernières années. Alors en vous lisant, Michel, je me suis demandé si on pouvait effacer un écrivain et son œuvre de la mémoire littéraire. Et puis j'ai trouvé des éléments de réponse dans l'un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire. Il est signé par un jeune romancier sénégalais. Retenez bien son nom, car vous allez en entendre parler. Il s'appelle Mohamed Bougarsar. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. La plus secrète mémoire des hommes est un roman qui m'a littéralement enchanté. C'est une quête labyrinthique pour dire le pouvoir de la littérature. Il vient de paraître aux éditions Philippe Rey, on va en parler. Cette littérature que nous évoquons, celle qui tente de dire le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, a un représentant dont l'œuvre est magistrale, traduite dans le monde entier. C'est un immense écrivain et il est avec nous ce soir. Voici Colm McCann. Bonsoir Colm.
Bonsoir.
Colm McCann, romancier irlandais, vous vivez à New York. On vous doit notamment Les saisons de la nuit et Que le vaste monde poursuive sa course folle. Votre dernier roman, À Peyrogon, sort ces jours-ci en poche. L'histoire de deux pères, l'un est israélien, l'autre palestinien, tous deux ont perdu leur fille, et puis contre toute attente, tous deux vont devenir amis et œuvrer pour une paix pourtant introuvable. Nous irons également, comme chaque semaine, faire une escale dans une librairie de France, et puis je vous donnerai des nouvelles de notre concours de lecture à voix haute qui reprend dès maintenant. Puisqu'on va s'interroger ensemble sur le pouvoir des livres, j'aimerais, pour commencer, que vous nous disiez, mais en quelques mots et de façon très intime, chacun, pourquoi vous lisez? Pourquoi lisez-vous, Michel Onfray?
Moi, je me suis trouvé dans un orphelinat quand j'avais 10 ans. Il y avait des prêtres salésiens, on était par paquet de 100 à chaque fois. Et il y avait une bibliothèque un peu effondrée dans le dortoir. Il y avait un peu tout et n'importe quoi, du Bob Moran, Pearl Buck, Yann Suin, etc. Et je suis tombé sur Le vieil homme et la mer.
Hemingway.
Oui. Et quand j'ai ouvert ce livre, je me suis aperçu que je pouvais aller en mer immédiatement quand je voulais. J'ouvrais et je me retrouvais dans l'océan. Je fermais, j'étais à nouveau dans le pensionnat. Et le caractère magique de cet ouvrage-là a décidé de pas mal de choses. À 10 ans, d'ailleurs, j'avais commandé un petit carnet, on avait des fournitures, et j'ai écrit ma première fiction.
Ah, c'était une fiction?
Oui, oui.
C'était pas un essai de philosophie, c'était pas un traité kantien?
À 10 ans, pas encore. Mais une vraie fiction. Et là, effectivement, les livres sont entrés dans ma vie. J'ignorais que je pourrais en écrire un jour. Mon origine sociale ne me permettait pas de penser ces choses-là. Mais je savais que je passerais ma vie au moins à les lire.
Aujourd'hui, Lydie Salvaire, pourquoi lisez-vous?
Parce que ça a changé mon regard sur les choses et ma vie. ça a l'air d'être un peu emphatique comme ça, mais je pense vraiment que ça a changé ma vie. Certaines lectures ont changé ma vie.
Colum, McCann.
Well, I read because I think it expands.
Moi, je lis parce que ça étend ma vision du monde. Parce que je ne veux pas être tout simplement moi-même. Je ne veux pas passer 24 heures par jour avec moi. Et quand on lit, eh bien, il y a un tout nouveau monde pour vous. Ça me permet de respirer.
Trois bonnes raisons, très complémentaires d'ailleurs. Mohamed Bougarsar, vous êtes né, vous, en 1990, à Dakar, au Sénégal. Je crois que vous avez ensuite été dans un lycée militaire au Sénégal. Pourquoi lisez-vous ?
Eh bien, parce que je crois que c'est là que je trouve de meilleures questions. Non pas des réponses, mais des questions mieux exprimées, peut-être plus intéressantes, devant une grande question qui est quand même fondamentale, qui est qu'est-ce qu'un être humain, qu'est-ce qu'un homme, donc que suis-je personnellement, mais qu'est-ce que la condition humaine ? Et cette question-là, pour mieux la poser, justement, il y a les livres, il y a la littérature, il y a les grands écrivains. Donc je lis, pour résumer, pour me poser de meilleures questions au cœur de la question centrale de la condition humaine. Et voilà. Et ça me rend heureux. Je pense que tout le monde ici l'est également.
Alors posons-nous des questions, ça rend heureux, justement. On va commencer avec Lydie Salvert et ce livre « Rêver debout ». Je rappelle, parce que ça a son importance, pour ce dont nous allons parler ce soir, je rappelle, Lydie Salvert, que vous êtes fille de réfugiés espagnols. Vous avez raconté l'histoire de votre mère dans « Pas pleurer », prix Goncourt, en 2014. Sa longue fuite d'Espagne vers la France à l'âge de 17 ans pour échapper au fascisme de Franco, puis les camps de concentration français à Argelès, notamment. Le français n'est pas votre langue maternelle. Vous l'avez appris à l'école primaire. Et avant d'écrire, vous avez découvert la psychanalyse et exercé comme psychiatre. Métier que vous connaissez donc suffisamment bien pour le critiquer parfois dans vos livres. « Rêver debout », disais-je, votre nouveau livre m'a enchanté. Vous allez voir, ça ne donne qu'une seule envie. Poser des questions, beaucoup, et relire. C'est aux éditions du Seuil, « Ode à Don Quichotte ». C'est un roman, en réalité, sous forme de lettres adressées aujourd'hui par une lectrice souvent agacée, hein, à l'auteur du Quichotte, Miguel de Cervantes. Un roman sur la réalité, donc sur la folie, donc sur l'amour de la justice, donc sur la révolte. Peut-être aussi roman pour une littérature engagée, on en parlera. Pour quelles raisons Lydie Salvert, aujourd'hui au XXIe siècle, exhumer, allez, je vais être provocateur, ce vieux texte, cette vieillerie de 1604, XVIIe siècle, ce Quichotte, pourquoi vous semble-t-il si nécessaire en 2021 ?
Alors parce que j'étais en plein confinement, comme tout le monde, et j'ai pensé qu'il y avait un personnage dans la littérature qui rompait avec panache, avec son confinement mental, puisque Don Quichotte passe ses journées confinées dans sa bibliothèque à lire des romans de chevalerie. Il rompt ce confinement pour aller habiter le monde et découvrir les autres qu'il ne connaissait pas.
Et pourtant, Cervantes nous présente Quichotte comme étant, aujourd'hui, on dirait le héros dont on n'a pas envie. On ne va pas faire un blockbuster américain avec Don Quichotte. Il est tout maigre, tout sec, il a le teint jaune.
Il s'est maltraité.
Il a un plat de barbier en guise de home, une lance totalement rouillée. Il confond les moulins avec des chevaliers. Bref, il est à côté de la plaque.
comment dire ? J'ai l'impression que pour Cervantes, c'est une façon justement de contourner la censure, de faire à cet Hidalgo des choses impensables à l'époque, comme défendre les pauvres contre les puissants, défendre les femmes qui s'émancipent, attaquer les ecclésiastiques. Et donc, il faut qu'il le paie un peu dans le livre. Donc, on le maltraite, on le fringue mal, il échoue une fois sur deux, etc. Mais je pense que c'est une ruse de Cervantes. C'est une ruse.
C'est précisément ça qui est, je trouve, le sel de votre livre, c'est que ça commence comme une mauvaise lecture. Bah, ça nous arrive tous de prendre les choses au pied de la lettre, de se dire « non, mais c'est pas possible, vous fichez de ce pauvre type, mais qui en réalité est merveilleux. » Vous l'engueulez copieusement, Cervantes.
Mais je feins, c'est par jeu. C'est par jeu. C'est, pour rire, comme disent les enfants, et puis pour prendre un peu le lecteur à revers, qui croit que je vais être béate d'admiration devant cet immense écrivain. Donc c'est une façon un peu de le déranger, c'est pour ça que je l'engueule.
Mais il y a quand même un point qui est très très étonnant et puis qui est déroutant, c'est que Don Quichotte est un noble qui à un moment se dit, enfin pas d'ailleurs un noble, mais il se lance sur les routes parce qu'il a lu trop de romans de chevalerie, parce qu'il a eu l'esprit dérangé par ses idéaux d'amour pur, de justice, de révolte contre les injustices.
Et il va continuer à défendre ce rêve, mais en essayant de le rendre concret. C'est ça qui est beau dans ce livre, évidemment.
Est-ce qu'il est fou ?
Mais c'est bien la question qui traverse tout le livre. Qui est fou ? Est-il plus fou que les inquisiteurs qui brûlent les hérésiarques, qu'on dit-on ? Les hérésiques.
Les hérétiques.
Les hérétiques, oui. Ça serait mieux. Est-il plus fou que la sainte Hermanda qui traite ces galériens comme des bêtes et qui le libère, qui est le plus fou ? Et pourquoi le désigne-t-on comme fou ? Parce qu'il est trop singulier ? Parce qu'il est trop révolté ? Parce qu'il ne se plie pas à la norme ? Ce sont des questions vieilles comme le monde. Mais en tout cas, tout le livre est traversé par cette question sur la folie, me semble-t-il.
Michel Onfray, alors je ne vous ai pas invité non plus complètement par hasard, parce que voilà, faut avoir un tout petit peu de mémoire, et pour ça on a les libraires, regardez. Le réel n'a pas eu lieu, il y a 10 ans pile, était un essai sur la réalité, la folie et Don Quichotte. Est-il fou parce qu'il croit moins à la réalité du monde qu'à la réalité des textes qu'il a lus, notre Quichotte ? Est-ce que le mot folie s'applique véritablement ?
Non, je dirais pas folie, mais c'est-à-dire que chacun a du réel, l'idée qu'il s'en fait, et il y a des gens qui ont des idées qui coïncident avec le réel et d'autres pas du tout. Le problème avec Don Quichotte, c'est qu'il pense que les livres qui disent le réel sont plus vrais que le réel lui-même. Et c'est une manie des intellectuels. Je suis en train de lire un livre sur Michel Foucault en Californie, par exemple, et je découvre que Foucault, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Surveiller et punir », qui a beaucoup travaillé sur la question des prisons, dit très précisément qu'il n'a jamais visité une prison, qu'il n'est jamais allé dans une prison. On peut dire, bon, après tout, on peut avoir visité des prisons et ne pas écrire de beaux livres, et puis écrire de beaux livres sans avoir visité de prison. Je pense qu'on écrit de meilleurs livres sur les prisons quand on les a visités.
Et donc il faut d'abord aller dans le monde, pardonnez-moi, mais il faut d'abord faire l'épreuve, l'expérience du monde pour le raconter.
Ça dépend, Lydie fait un travail de romancier, donc moi je pense que le romancier a tous les droits. Le philosophe n'a pas tous les droits, c'est-à-dire il y a un moment donné où le réel, vous ne devez pas dire l'idée que je me fais du réel est plus vraie que la réalité. Vous savez, tous ces gens qui pensent qu'ils ont une idéologie, ils ont des idées, une religion des idées, et puis si le réel leur donne tort, ils changent de réel.
Alors ça on va y venir, parce que ça correspond au livre dont vous parlez dans votre propre essai, et qui ont été les livres marqueurs attaqués par des idéologues. Mais là, en l'occurrence, dans le cas du Quichotte, il a la tête farcie de romans de chevalerie. On dirait aujourd'hui, Lydie Salvert, je ne vais pas donner de marque, mais enfin, allez, ces romans à l'eau de rose qui vous font croire à des choses.
Complètement hors du monde, où tout est merveilleux, où les héros sont héroïques et bien coiffés, où les princesses sont blondes, où il y a des fées à chaque carrefour.
Don Quichotte, Madame Bovary, même combat.
J'ai
une représentation de l'amour, je crois que ça va être ça, et je me fie à ce que ça doit être.
Non, justement.
Roman.
Mais non, lui, il veut rompre ça, le Quichotte. Il veut rompre ça. Il va au monde. Il va au monde. Il se jette dans le monde.
Je crois que celui qui va au monde, c'est Sancho Panza.
Mais les deux. C'est ça qui est beau.
Alors,
c'est
voilà,
que les deux sont,
beaucoup,
pour moi, les deux sont indissociables.
Alors vous dites, c'est le miroir du monde. Le miroir de notre monde, vous les faites un couple unique, indissociable. Vous, Michel Onfray, vous les opposez. Alors commençons par Lydie Salvert. Il n'y a pas de Don Quichotte sans Sancho Panza, qui représente quoi ? Qui représente le bon sens face à quelqu'un qui est un peu exalté ?
Voilà, Don Quichotte, c'est notre désir d'infini, d'impossible, notre désir d'envol, etc. Et Sancho vient lui rappeler qu'il y a la réalité brute, la réalité nue, qu'il y a des limites, que tous les rêves ne peuvent s'exaucer, etc. Et je pense qu'il y a en chacun de nous une part quichotesque, qui rêve, bien sûr, d'un monde plus désirable, plus habitable.
Plus égalitaire. Il y a cette formidable où Sancho Panza est presque admis à la table de Quichotte, qui le traite comme son égal, en lui disant d'ailleurs, tu dois être persuadé que tu es mon propre semblable.
Absolument. Qui est contre l'injustice, qui veut défendre ce qu'il appelle les misérables, etc. Je pense qu'il y a de sang chacun de nous, en tout cas, je l'espère. Mmh. Sommeille en nous aussi celui qui dit reviens sur terre, atterris un peu.
Est-ce qu'il faut atterrir?
Mais je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut justement rêver debout. Je pense qu'on peut continuer à rêver, mais en étant dans le monde. Je pense que ce n'est pas impossible.
C'est possible, ça, ou c'est inconciliable? Rêver debout, continuer à rêver tout en étant dans le monde, nous dit Lydie Salver.
Je crois que quand même Don Quichotte promet un royaume à Sancho Panza qu'il ne lui offrira pas. C'est la déception qui est là. C'est l'idéal, c'est bien, l'idéalisme, c'est formidable. Moi, je pense que ce sont deux figures opposées. C'est l'idéaliste et le matérialiste. Mmh. Chacun ayant ses tares, ses limites, hein, entendons-nous bien. Sancho, c'est la panse, c'est le personnage un peu lourd, épais.
Il était rien.
Voilà. C'est le personnage qui... Il y a ça déjà chez Platon, mais il y a ça dans toute l'histoire de la philosophie. L'idéaliste et le réaliste. Il y a une grande querelle qui dure des siècles au Moyen-Âge là-dessus. Il y a chez Don Quichotte cette idée que l'idée est supérieure au réel. Et chez Sancho Panza, cette idée qu'il n'y a pas d'idée et qu'il n'y a qu'un réel et qu'il suffit de le regarder. C'est toute la question des moulins. Tout le monde connaît l'histoire des moulins que Don Quichotte prend pour des chevaliers.
Et des géants.
Sancho Panza,
des géants, oui.
Oui, c'est ça. On dit, mais c'est pas ça, c'est des moulins, quoi. Et cette idée de dire revenez sur terre, c'est peut-être moins prosaïque, mais c'est le réel. Ce qui est important, c'est bien l'idée, mais quand on revient sur terre, c'est quand même très déceptif.
Colm McCann, vous l'Irlandais, mais aussi le romancier, êtes-vous plutôt du côté du réel de Michel Onfray quand vous lisez Quichotte ou au contraire de l'utopie qui arrive un poil trop tôt avec Lydie Salver?
Je crois que tout d'abord, Don Quichotte, c'est un grand livre. Quand vous posez la question qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, avec ces gens qui viennent avec des idées de fake news, la fiction, la non-fiction, pour moi, il me semble que le réel, c'est une magie. L'imagination, par exemple, devient réelle. Ce merveilleux livre, ce livre puissant, livre d'imagination, est devenu très réel pour nous. Pour moi, personnellement, en tant qu'écrivain irlandais, je pense à James Joyce et Ulysse. C'est une œuvre d'imagination. Mais mon grand-père était vivant le 16 juin 1904, lorsque Ulysse a été publié. Mon arrière-grand-père était vivant. Je n'ai jamais rencontré mon arrière-grand-père, mais je peux le rencontrer à travers les pages d'un livre imaginaire. Et donc cette imagination devient partie de ma réalité. Donc ce sang qui coule en moi est informé par l'imagination des écrivains. C'est pour ça que je dis qu'il y a des temps intéressants. Ce qui est réel peut être imaginé et peut être décrit. Et ce qui est imaginé peut devenir absolument réel. Et c'est véritablement la question de nos temps.
Ces deux personnages de Colm dans son livre, on peut les croire complètement utopistes et fous.
Oui.
Mais tant qu'il y aura ce petit espoir de rien, je pense que...
Au risque de l'échec et au risque du désenchantement.
Oui, bien, sans doute.
Vous écrivez, Lydie Salver, alors pour j'allais dire avancer sur cette question de la réalité et du désenchantement, vous écrivez que le Quichotte perçoit parfaitement la réalité, mais je vous cite, il l'aperçoit depuis ce que Victor Hugo appelle le promontoire du songe. Mmh. Ah, ça appelle une explication.
C'est-à-dire qu'il il voit le monde... justement éclairé par son imagination. Il voit de la beauté là où les autres ne la voient pas. Il voit ce que nos habitudes de penser, de connaître, ne voient plus grâce à l'imagination.
Voilà, le promontoire du songe, petit livre de Victor Hugo qui raconte ce que veut dire voir le réel en poète. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Mohamed Bogarsar, voir le monde et le réel en poète, est-ce différent de le voir en philosophe, en...
Alors, je crois que c'est absolument différent. J'ai d'abord lu Don Quichotte et votre livre. Je pense que ce sont deux livres très parallèles, pas simplement parce que vous écrivez sur les quichettes, mais simplement parce que je trouve que dans le fond, vous dites la même chose. Que vous dites que vous faites l'éloge de la littérature. Je pense que votre lecture est très kundérienne, parce que Kundera aussi est l'un des grands lecteurs de Quichotte, et il le dit à un moment donné qu'en réalité, sous la blague kundérienne, sous la plaisanterie kundérienne, il y a une vérité philosophique plus profonde, qui est que là, notre vérité aujourd'hui, c'est peut-être une vérité de la littérature, et c'est celle-là à laquelle on croit le plus, à laquelle on croit le mieux. De ce point de vue-là, je suis vraiment très heureux que vous réintroduisiez ce sens-là de Don Quichotte pour en faire une sorte de mise en abîme sur la littérature elle-même, sur son pouvoir et sur ce qu'elle nous permet de voir. Don Quichotte est le grand livre de la littérature et ce n'est pas pour rien que c'est l'un des livres fondateurs de la littérature occidentale et mondiale de façon générale.
Y a quand même une question que nous pose Don Quichotte, c'est faut-il croire à la littérature, faut-il croire ce qu'on lit, son tort ? En parlant de Quichotte, écrivez-vous, Lydie Salvaire, page 64, sa faute impardonnable fut de prendre la littérature à la lettre et ses fictions pour argent comptant. Alors, la littérature ment ? La littérature est une escroquerie ? Il ne faut pas la croire ?
La littérature ment, elle ne fait que ça. Hein. La fiction, c'est le mensonge merveilleux, auquel on croit comme croient les enfants à une histoire qu'on leur raconte. Il ne s'agit pas de croire que ça va se réaliser, évidemment.
Colomb, McCann.
Parce que la littérature avance.
Literature lies, but it tells the
la littérature ment, mais elle donne l'image d'une vérité absolue. Ce que fait la littérature, c'est tenter d'habiter les contradictions du cœur humain. Ce qui me fascine, c'est que les faits peuvent être manipulés. Ils peuvent devenir des mercenaires. Ils peuvent véritablement être envoyés à n'importe quel orphelinat, par exemple. Mais le travail de la littérature, comme le travail de la philosophie ou du journalisme, c'est d'arriver à la vérité absolue, ce qui est impossible. La quête est infinie. Le problème dans lequel nous sommes actuellement, c'est que nous sommes malades de la certitude. Tout le monde est certain de ce qu'est le monde. Et vous ne pouvez rentrer chez moi que si vous êtes d'accord avec moi. Mais non, ce que la littérature vous propose, c'est vivons dans un monde de désordre. Et la meilleure littérature, c'est celle qui pose toutes ces questions. Comme je l'ai dit précédemment, comme Lydie l'a dit précédemment, c'est les questions qui sont importantes. Les réponses ne sont totalement, n'ont aucun sens. Et c'est ce que vous suggérez aussi.
Page 177, éloge de la littérature sous la plume de Lydie Salvaire. La littérature mine les stéréotypes. Ça doit vous plaire, ça, Michel. Bouscule les morales établies et les polices de l'esprit. Insuffle des idées qui vont à rebours des idées dominantes. Vous faites non seulement de Don Quichotte un anarchiste, bon, ça, on va en discuter avec Michel pendant longtemps, mais vous en faites un féministe également. Alors, mais l'anarchiste, moi, je veux bien. Le libertaire, je comprends. Mais enfin, le féministe.
Mais bien sûr, il défend Marcel.
Ah, Marcel. Alors, racontez qui est Marcel. Alors, Marcel de Zelle-E, bien sûr.
Marcel de Zelle-E.
Eh oui.
Alors, Marcel est une jeune femme qui est la beauté incarnée, que tous les jeunes hommes de la région convoitent et qui a décidé qu'elle n'épouserait jamais personne, qu'elle voulait être libre, qu'elle préférait la compagnie des oiseaux à celle d'un mari qui l'enfermerait, puisqu'à l'époque, il n'y a pas d'autre horizon que le mariage pour les jeunes femmes, qu'elle veut travailler, ce qui à l'époque est une horreur. Quand on est une jeune femme bien née, on ne travaille pas. Qu'elle veut sortir sans mari ou sans frère, ce qui à l'époque est encore impensable dans les traités des vertus féminines. Et Cervantes prend sa défense. Il prend sa défense. Et ça, j'avais complètement oublié quand je l'avais lu il y a longtemps. Et j'ai été enchantée de ça. C'est 1605. 1605.
Rêver debout, s'il fallait aujourd'hui, en 2021, et plus en 1605, mais aujourd'hui, nous dire comment on fait pour rêver debout, que répondriez-vous à cette question ?
Comment faire pour rêver debout ? Il me semble que c'est ce qu'on fait tous, non, là ? Non, c'est rêver, continuer à rêver, mais sans perdre le lien au monde et aux autres. Mmh. Mais vos deux personnages rêvent debout l'un et l'autre, et ils ont raison. Envers et contre tout, ils continuent à espérer qu'un jour, la Palestine et Israël seront réconciliés, et ils se battent pour ça. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'on a toujours raison de rêver debout.
Thank you for saying that.
Merci de le dire.
I think we have to,
je pense
risk
que
il faut
risquer. Il faut risquer l'humiliation. Il faut risquer de raconter nos histoires et il faut risquer l'espoir. Je crois que la définition du rêve éveillé dont on parle, rêver debout, c'est le voyage vers l'espoir à la face de la réalité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de regarder autour de nous, de voir le monde tel qu'il est, présentement. Et c'est une place qui est vraiment une place de désolation. Et peut-être que c'est le travail d'un auteur de trouver de l'espoir, ou même d'un homme ordinaire. Cette merveilleuse série de poèmes en arabe qu'on appelle les Mualaqat, ce qu'on appelle les suspendus du 6e siècle pré-islamique. Eh bien, y a-t-il un espoir que cette désolation puisse nous apporter le réconfort? C'est un des vers. C'est la question essentielle pour l'écrivain d'aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe devant nous, comment est-ce qu'on peut oser de risquer quelque chose et de trouver de l'espoir, en dépit de toutes les preuves qui existent contre vous?
Don Quichotte, éloge de l'audace. Vous allez me demander tout de suite comment on lit Don Quichotte. En poche, plein de traductions. Il y en a une qui est très au-dessus de toutes les autres, pardon de le dire. Elle est éblouissante parce qu'extraordinairement poétique, c'est chez Point Seuil, celle d'Aline Schulman, qui nous donne
merci
ceci.
De le dire.
Ah non, mais c'est absolument dingue. Non, mais c'est vrai. Alors là, c'est incroyable. C'est-à-dire que tout à coup, c'est poétisé. Et nous avons cette épitaphe de Quichotte. Il brava l'univers entier, fut l'épouvantail des peureux, croque-mitaine des fielleux. Et cette phrase géniale, il eut le plus grand des courages, vivre en folle et mourir en sage. Pas beau ça, Michel Onfray?
Oui, oui.
Vivre en fou et mourir en sage.
C'est l'éloge de la folie d'Érasme.
Ouais.
Le fou, c'est celui qui ne pense pas forcément comme les autres, mais il y a des folies déraisonnables, de même qu'il y a des rêves raisonnables et des rêves déraisonnables. Le problème, ce n'est pas être pour ou contre le rêve, mais si le rêve est sans limite, la déception est assez probable. L'intérêt, c'est de voir le réel comme il fonctionne, et il est, pour le coup, soyons deleuziens, ce qui n'est pas franchement mon cas, mais il est divers, il est multiple, il est éclaté, il est explosé, et le rêve est possible dans cette aventure. L'imaginaire, l'imagination, tout ça, c'est possible dans l'aventure. Mais il y a souvent une critique idéaliste du matérialisme, parce qu'on pense que le matérialiste, c'est un peu le cochon qui a le groin dans la terre, c'est ce que dit Platon à l'époque, ces fameux pourceaux d'Épicure, ouais, qui ont une complexion physiologique qui fait qu'ils sont en train de remuer la terre, mais incapables de lever la tête, donc incapables de voir les étoiles. Je suis pour qu'on voit les étoiles, pour qu'on sache que ce ne sont que des étoiles.
Rêver debout, Lydie Salvers, aux éditions du Seuil. Alors, Michel Onfray, venons-en à votre contribution à l'histoire de la littérature contemporaine, que vous nous proposez en racontant l'histoire de la censure, l'histoire des attaques, des calomnies, des procès médiatiques intentés à des livres qui ont, au cours des 50 dernières années, dérangé les idéologies dominantes. Autodafé, sous-titré « L'art de détruire les livres », paraît aux presses de la Cité. C'est un livre qui me semble passionnant et évidemment en écho avec une lecture moderne du Don Quichotte, mais aussi des romans de Colm McCann et de Mohamed Bougarsar. Vous racontez la réception critique, par exemple, de l'archipel du Goulag et de Solzhenitsyn, du choc des civilisations de Samuel Huntington, des habits neufs du président Mao de Simon Less, souvenez-vous, 1971, ou encore, plus récemment, du livre noir de la psychanalyse, Aristote au Mont-Saint-Michel, de Sylvain Guggenheim, ou encore le voyage au centre du malaise français de Paul Lyonnais dans les années 90. Il existe donc, Michel Onfray, une idéologie nihiliste, aujourd'hui, qui n'échange plus, qui ne discute plus, qui condamne un livre dès sa parution, sous la forme de ce que vous appelez, vous, un procès médiatique?
Oui, parce qu'on peut détruire les livres en n'en parlant pas. Vous faites un livre, il existe. Alors d'abord, il y a les manuscrits qui arrivent chez des éditeurs et qui ne sont jamais édités. Ça, c'est une façon de...
Ils ne sont pas tous forcément très bons, s'ils n'ont pas été édités.
Non, j'entends bien. Mais on pourrait faire une histoire des grands livres qui ont été refusés. On pourrait commencer par Proust. Et il y a quand même un certain nombre de gens qui, oui, qui n'ont pas été acceptés. Et c'était une bonne façon de n'en pas parler. Après, il y a la fabrication d'une espèce d'avatar du livre. C'est-à-dire, on dit machin, dit dans ce livre, ceci, cela, etc. Et quand vous avez écrit ce livre, parfois, vous dites, mais moi, je n'ai jamais écrit ça. J'ai jamais dit ça. On me fait dire des choses que je ne dis pas. Et de fait, si dans ce livre, j'avais pu écrire cette chose-là, j'aurais été franchement détestable. Mais pour ce faire, que fait-il faire ? Lire le livre. Moi, quand j'ai lu la presse concernant le livre noir de la psychanalyse, je me suis dit, c'est incroyable. Ces gens sont tous, ce que disaient les journaux bien en vue, là, ce sont tous des antisémites, ce sont tous des gens payés par les laboratoires, ce sont tous des gens...
Alors, on rappelle les faits, hein, si vous voulez bien. On est à la fin de la première décennie des années 2000 et un collectif d'une trentaine de psychanalystes, psychiatres, psychiatres également, publie ce livre noir qui sera un succès de librairie en France, puis aussi à l'étranger, dans lequel il s'agit non pas de dire c'est pas bien, mais simplement, factuellement, de raconter un certain nombre d'erreurs factuelles, de prétentions pas tenues, justement, de réelles, qui n'a pas eu lieu, pour reprendre votre expression, notamment l'idée que la psychanalyse soigne.
Oui, c'est Freud lui-même qui, dans Analyse avec fin, Analyse sans fin, l'un de ses derniers textes, dit bien sûr que ça ne soigne pas, mais au moins j'aurais fait le nécessaire. Un jour, la chimie rendra ces choses-là possibles. On n'y est pas, mais au moins, en attendant, il fallait ce genre de choses. Le texte de Freud lui-même dit que l'inconscient est une métaphore, que c'est une allégorie, et que l'essentiel en la matière, c'est ce qu'il appelle le plasma germinal. Donc il faut lire Freud. J'ai acheté ce livre en me disant je vais faire mes cours à l'Université populaire. Un jour, il y aura bien un lecteur de ce livre-là qui m'enverra des arguments que je n'aurais pas connus. Donc je vais lire ce livre pour savoir un peu ce qu'il en est. Et quand j'ai lu ce livre, je suis tombé de ma chaise et j'ai refait l'enquête par moi-même en me disant je lis l'œuvre complète de Freud, je lis des biographies plus la correspondance et je mets tout en perspective pour voir comment la pensée de Freud évolue et ce qu'il a dit lui-même. Quand il dit de la psychanalyse qu'elle est un blanchiment de nègre, c'est pas moi qui ai écrit ça. Il le dit, il dit ça marche pas. Il y a un moment donné où il travaille avec...
Il dit dans sa correspondance. Hein.
Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, dans la correspondance, il dit la vérité. Il dit « ça ne marche pas, le soin avec la cocaïne, mais je suis bien obligé de le dire, parce que voilà, il utilise l'électrothérapie, il utilise l'imposition des mains, il a un psychrophore, qui est une espèce de sonde qu'on rentre dans l'urètre et pour empêcher les hommes de se masturber. Enfin, il y a des choses incroyables chez Freud. C'est le réel, j'y peux rien. Quand Freud dit « moi j'ai besoin d'argent, je vais changer de thérapie parce que cette thérapie-là ne fonctionne pas », et immédiatement, vous dites, c'est écrit, c'est dit, c'est raconté. On dit, mais il dit qu'on ferait dire que Freud aime l'argent, c'est donc qu'il est antisémite, paf, l'affaire est réglée. Mon livre ne peut pas être lu, je suis antisémite. Eh bien, c'était exactement la même chose.
En fait, pardonnez-moi, mais c'est ce que vous pointez derrière le point commun de tous ces livres, c'est à la réception, discréditer par l'insulte l'auteur en disant, point commun, il est soit antisémite, soit fasciste.
C'est ça, c'est ce que l'excellent Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel. Moi, je défends mai 68, il y a eu après mai 68, les 68 arts, qui ont effectivement généré une espèce de nihilisme intellectuel, et cette façon de dire, mais arrêtez de nous embêter avec le réel, si vous dites que la révolution culturelle, ça fait des millions de morts, si vous dites que le marxisme a généré en Union soviétique un goulag qui fonctionne comme des camps, comme une prison incroyable, etc., vous mentez. Si vous dites que, et vous prenez chacun des livres...
Comment l'expliquez-vous, Michel Onfray ? On va prendre un exemple très très simple, celui de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, paraît au milieu des années 1970 en France, en 1973. Je rappelle que Solzhenitsyn lui-même fait l'expérience du Goulag, il le raconte au cours d'un livre de plus de 1600 pages, qui est acclamé dans le monde entier, reçu y compris dans les pays, par exemple, d'Amérique du Sud, où il est fracassant de réalisme et où il conduit un certain nombre d'intellectuels à rompre immédiatement avec le Parti communiste, en France, vous racontez l'inverse. Ceux qui auraient dû le défendre l'attaquent.
Je pense d'ailleurs que cette édition n'est pas complète. Les trois volumes ne tiennent pas dans ce volume-là. C'est-à-dire que ce sont probablement des extraits, parce que, là encore, les trois volumes, c'est trois fois 500 pages, hein, les trois volumes sont indisponibles. Ça pourrait être en Pléiade, c'est pas en Pléiade. On se dit, mais ce texte-là mériterait quand même de figurer dans une édition qui soit franchement intégrale.
C'est une version abrégée.
Voilà, version abrégée. C'est quand même sidérant. Version abrégée. Je pense, et là on retrouve Don Quichotte, c'est cette idée que nombre de gens préfèrent des illusions qui les sécurisent à des vérités qui les angoissent.
Est-ce que ça veut dire, que vous avez aujourd'hui, dans le monde intellectuel, des gens qui ne croient pas ce qu'ils voient,
oui,
mais qui veulent croire en ce qui sont leur foi,
absolument,
leur croyance, oui, idéologique.
C'est complètement ça, c'est ce que disait Brecht, hein, quand le peuple ne vote pas bien, on change de peuple, plutôt que de changer éventuellement d'idée. D'avoir dit qu'il était un chrétien antisémite, qu'il était contre-révolutionnaire, réactionnaire, payé par la CIA, donc on n'avait plus besoin de lire ce livre, puisqu'il était le livre d'un méchant. Alors ça, c'est aussi une bonne façon de discréditer un auteur, c'est l'attaque ad hominem. Le personnage est détestable, donc le livre est détestable. Vous n'allez tout de même pas lire le livre d'un antisémite, donc laissez l'archipel du Goulag de côté. Mais pas du tout. Il lui dit très précisément que, intrinsèquement, dans la dictature du prolétariat de Marx, dans cette idée qu'il faut une appropriation collective des moyens de production et de manière violente, la chose est dite, il y a des textes qui font l'éloge de la violence, ben voilà, nous y sommes. Et il nous dit très précisément ce qui se passe dans les camps. Et normalement, après la lecture d'un livre comme celui-ci, on ne devrait plus avoir le paysage politique français que nous avons.
Alors, vous reconnaissez tout de même que ces livres-là ont été attaqués à leur parution, mais qu'aujourd'hui, nul ne songe à les attaquer. C'est-à-dire que le temps fait également que l'on a oublié ces critiques fielleux. Vous avez cette expression, Lydie Salvert, dans votre livre, en parlant de Cervantes, « Laissons les littérateurs fielleux de côté ». Ils disparaissent, reste l'œuvre.
Il reste si peu l'œuvre qu'elle est inaccessible en œuvre complète. Des morceaux choisis, des extraits. Que peut-on dire ?
C'est pas faux.
Ah oui, c'est-à-dire s'il a pris soin d'écrire 3 volumes, qu'est-ce qui fait qu'on fait une édition expurgée ? Et qui a expurgé ? Et j'aimerais savoir ce qui a été expurgé, très précisément. Et à un moment donné, on se dit, ça continue la censure.
Le choc des civilisations de Samuel Huntington paraît à la fin des années 90, au départ dans un relatif silence, une série d'attaques, et puis qui reviennent quelques années plus tard, juste après le 11 septembre 2001. Vous avez choisi de raconter, et c'est passionnant, la réception critique en France de ce livre, dont j'aimerais que vous nous rappeliez la thèse, le choc des civilisations.
Ben, à partir du moment où l'Union soviétique s'effondre, on voit effectivement que il y a 2 thèses possibles. C'est celle de
Fukuyama. Pardon, Francis Fukuyama.
J'ai failli dire Fukushima. Ouais. Et qui lui nous dit...
On l'a un peu oublié, le pauvre Fukuyama.
Or, il a fait un ouvrage qui... Ils étaient l'un et l'autre prof et élève. Mais la thèse est qu'après l'Union soviétique, le libéralisme a triomphé sur la planète entière. Thèse hegelienne, hegelo-marxiste.
C'est la fin de l'histoire.
Voilà. Fin de l'histoire, réalisation du capitalisme sur l'ensemble des pays de la planète. Tout le monde a enfin compris que le capital, c'était formidable et qu'il allait falloir... réaliser le capitalisme partout sur la planète. Huntington dit pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que les 2 blocs communistes et capitalistes sont opposés et que l'un des 2 n'existe plus qu'il n'y aura plus rien. Il dit mais non, ça continue. Les civilisations sont des blocs spirituels. C'est la thèse d'Huntington. Une civilisation, c'est un bloc spirituel. Mais pour tous ces gens qui ne veulent pas entendre parler de spiritualité, parce que parler de christianisme, c'est être chrétien, comme si parler de bouddhisme, c'était être bouddhiste, et puis parler d'islam, c'est tout de suite être islamophobe. Lui dit, mais non, regardez comment fonctionnent les blocs de civilisation, ces blocs s'opposent. Et il dit, regardez les points de friction, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un ouvrage qui a des années. Il suffit de le relire aujourd'hui, de regarder ce qu'il disait en disant « Ici, là, il va se passer des choses, etc. » Il s'est passé ces choses. C'est-à-dire le réel a donné raison à Huntington. Il y a des blocs de civilisation et les points de friction de ces civilisations, ce sont très exactement les endroits de guerre. Votre livre est explicable avec Huntington, ce qui se passe, Israël, Palestine, etc. Il nous explique pourquoi ça marche comme ça et comment ça marche comme ça. Donc il fallait choisir son camp, vive le capitalisme, vive le libéralisme, c'était formidable. Il allait enfin triompher sur la planète, donc il fallait choisir le dernier homme, ou alors on choisissait Huntington qui disait « Eh non, l'histoire est tragique, c'est pas drôle, les conflits vont se déplacer, ce ne seront plus des conflits qui opposeront l'Union soviétique et les États-Unis, mais les États-Unis et d'autres adversaires. »
Et Huntington, d'ailleurs, vous avez raison de le rappeler, qui ne cesse de dire « C'est terrible, mais c'est comme ça.
Oui.
Je ne le souhaite pas, mais c'est ainsi. »
Et l'une des thèses...
C'est pas son idée.
L'une des attaques qu'on lui réserve, c'est de dire qu'il crée ce qu'il annonce. C'est comme si on disait au cancérologue qui annonce un cancer qu'il a créé ce cancer. Huntington ne dit pas « c'est formidable ». Il dit « je vois ça, ça risque de se passer comme ça. Donnez-moi raison ou donnez-moi tort si le réel me donne raison ou si le réel me donne tort. » Et un grand nombre d'intellectuels parisiens disent « le réel, on s'en moque, c'est vous qui avez tort parce que nos thèses ne sont pas celles-ci ». Il n'a pas créé les conflits de civilisation qui sont la vérité de ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe en Afghanistan, enfin partout ailleurs, en Crimée, en Ukraine, etc. Tout est déjà chez Huntington.
Colm McCann, vous êtes irlandais, vous êtes arrivé à New York, aux États-Unis, à la fin des années 1990. Vous y vivez depuis ce temps-là. La parution de ce livre de Samuel Huntington a-t-elle soulevé les mêmes polémiques aux États-Unis ? Et vous souvenez-vous de votre lecture, si vous l'avez faite, de ce livre, Le choc des civilisations ?
Très controversé. C'est intéressant lorsque Fukuyama est arrivé, le grand débat. S'il y a une fin aux choses. Moi, j'ai grandi en Irlande. Et il y a une histoire de 800 ans derrière moi, de division. Et lorsque j'ai grandi, quand j'étais enfant, Il y avait des attentats à la voiture piégée, des gens qui étaient tués dans les rues de Belfast. Mais moi, je n'ai jamais cru qu'on arriverait à un endroit où on aurait une solution de ce problème. Il y a un processus de paix en Irlande qui a 20, 30 ans, voilà. Mais cette paix existe. Et c'était pour moi une sorte de miracle. Je ne pense pas que les choses cessent finalement. Il est plus intéressant de déterminer le début des choses plutôt que la fin. Mais les choses ne cessent jamais véritablement. Et cette discussion, ce débat sur le choc des civilisations est fascinant. Mais l'inévitable, c'est que ça va continuer. Le miracle, c'est que certaines choses s'arrêtent. Le mur de Berlin s'est effondré. Rami et Bassam, dans mon livre, parlent de cette notion incroyable qu'il y a maintenant une ambassade d'Israël à Berlin et un ambassadeur d'Allemagne à Tel Aviv. Qui aurait pu imaginer ça en 1945? Donc, le monde nous frappe de ces coups de foudre. Et ce sont des idées. Et ces idées merveilleuses, mais il y a une interruption, une disruption du monde qui semble cesser. Mais les choses se poursuivent sous une autre manière. C'est ça qui est fascinant. C'est un bon territoire pour le poète, l'écrivain et le philosophe.
Pour quelles raisons avez-vous choisi Michel Onfray? Des essais, des livres d'histoire, des idées, mais pas de romans.
Ça, c'est à cause de mon inculture. Moi, je lis peu de romans, assez peu, quelques classiques quand je peux, mais assez peu parce que je fais des lectures intéressées pour les livres que je peux faire, pour les conférences. Et là, par exemple, pour lire les livres de tous les amis sur le plateau, c'est une, si on fait ça correctement, c'est une semaine de travail.
Ouais.
Une semaine de travail.
Ouais. De plaisir.
Oui. Si j'avais un autre métier, je ne sais pas, je pourrais trouver plaisir à lire des romans. Mais il se fait que mon métier m'oblige à lire de l'histoire, de la philosophie, bien sûr, mais des essais, à m'informer pour justement disposer d'informations sur le réel. Et c'est l'une de mes tristesses de ne pas avoir plus de temps à consacrer au roman.
Vous racontez en fait l'histoire des attaques ad hominem, de la calomnie, des procès médiatiques au cours des 50 dernières années, c'est-à-dire des années qui sont aussi les années de déconstruction, qui sont aussi les années d'aveuglement idéologique. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, nous en sommes sortis en France, ou est-ce que demain, un livre peut avoir la même réception haineuse, batailleuse, que celle qui fut réservée à l'archipel du Goulag ou au choc des civilisations?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec
vous le croyez?
Avec la cancel culture, avec l'idéologie woke, on a à peu près la même chose. Je vais travailler sur...
Il ne s'agit pas d'une minorité, là. Parce que ce que vous racontez, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'à l'époque, c'est la majorité dominante dans la presse.
Oui, mais il y a des minorités actives qui font plus de bruit que des majorités silencieuses. Et le dispositif intellectuel parisien, c'est très peu de choses. Vraiment, c'est une quinzaine de personnes qui font la loi dans chaque domaine. Donc, il suffit qu'une quinzaine de personnes qui pensent à peu près la même chose.
Parce que, ça, vous y croyez encore, vous?
Et c'est pas que j'y crois, c'est que je le vois. C'est-à-dire que les journaux sont les propriétés de milliardaires qui ne défendent pas n'importe quelle idéologie. Ils défendent à peu près tous la même. D'autant que ces journaux-là sont subventionnés par l'État en plus. Ils sont des milliardaires, mais on leur donne de l'argent parce qu'ils défendent exactement la même idée, la même idéologie. Donc évidemment, quand on choisit de parler d'un roman plutôt que d'un autre, vous avez 500 romans qui paraissent à la rentrée. Et pourquoi on va parler de 10, et puis dans les 10, de 3 ou 4, et pourquoi est-ce qu'un ou deux vont faire l'objet d'un prix, d'une distinction de...
Je ne veux surtout pas passer pour celui qui va défendre ces milliardaires propriétaires de journaux, surtout après avoir démissionné de pas mal de journaux. Enfin, franchement, vous n'allez pas avoir la naïveté de penser que c'est l'actionnaire qui fait la ligne éditoriale du service libre.
Ah, mais je pense bien que si le personnage qui a la responsabilité des livres dans un hebdomadaire ne fait pas le boulot pour lequel il est payé, on va changer le personnage pour en mettre un autre. C'est-à-dire, il n'y a effectivement plus le coup de fil qui consiste à dire « il va falloir parler de machin, mais pas de bidule, d'un tel et pas de tel autre ». Évidemment que ça ne se passe plus comme ça. Mais quand vous êtes là, vous savez quel boulot il faut faire. Ça me paraît évident. Donc il y a des livres dont on parle, des livres dont on parle bien, des livres dont on parle mal, des livres qu'on encense, mais dans telle presse.
Vous ne croyez pas qu'il y a de la conviction? Il n'y a plus de place pour des journalistes convaincus, des lecteurs qui aiment véritablement, qui disent « ah bon, j'ai absolument aucun intérêt à inviter mon frère, enfin j'ai tellement aimé son bouquin qu'on va le faire dialoguer avec Lily Salver, Colm McCann et puis un jeune écrivain prometteur ».
Moi j'aime bien les dégustations à l'aveugle. Oui. Vous savez, quand on vous verse un vin dans une carafe et puis on vous le fait goûter. Oui. Et alors là, il y a pas mal d'œnologues professionnels qui disent beaucoup de bêtises. Beaucoup, beaucoup. Parce que quand vous leur servez un vin et qu'ils connaissent l'étiquette, ils sont capables de vous dire qu'il est génial, qu'il est formidable, qu'il n'est pas bon, etc., etc. Mais les dégustations à l'aveugle, ce serait formidable, vous arrachez la page, on ne vous dit pas qui est l'auteur. On vous donne un livre, on dit « faites un commentaire ». Et alors là, vous auriez des journalistes un peu embêtés. Comment peut-on dire du bien ou du mal d'un livre que parfois on n'a pas lu? Parfois on s'est même juste contenté de lire le titre pour pouvoir faire un papier. Parce que vous lisiez un livre ou que vous ne lisiez pas, si vous faites votre papier, vous serez payé aussi cher. Si vous avez un livre de 500 pages à lire et qu'il vous faut 4 jours de travail et qu'il vous faut rendre...
Je ne suis pas sûr tout de même que ce soit la majorité. Non, mais j'ai bien compris, mais...
La majorité, je ne dis pas que c'est la majorité, je dis que ça existe. Moi, j'ai vu parfois des gens dire qu'il y avait dans mes livres des choses qui ne se trouvaient pas. Il se fait que moi, je lis mes livres puisque je les écris.
Mais dans ces livres-là, ces livres que vous n'avez pas choisis au hasard, puisque à chaque fois, ce sont des livres qui viennent ébranler une pensée dominante.
Oui.
Quel est l'intérêt de ceux qui les égratignent, les calomnient, attaquent leur auteur?
La défense de l'idéologie dominante. Si vous avez une idéologie dominante, il faut la défendre. Et tous ceux qui disent que ça ne fonctionne peut-être pas complètement comme ça, eh bien, se font renvoyer au fossé. J'aurais pu commencer plus tôt, j'aurais commencé avec, avec L'homme révolté d'Albert Camus. C'est très exactement la même chose.
Je m'étonnais de ne pas le voir.
Oui, parce que je me suis dit, on va faire les 50 dernières années. Mais quand Sartre dit, par exemple, que puisque Le Figaro dit du bien de L'homme révolté, c'est que c'est un mauvais livre et que c'est un livre de droite. Vous vous rendez compte, ça? Ces gens qui disent qu'ils préfèrent avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Mais on peut avoir envie d'avoir raison avec Camus, sans forcément rentrer dans cette logique-là. Donc il y a cette idée que si on vous sert un grand cru classé, il est obligatoirement très bon. Sauf que si dans la bouteille d'un grand cru classé, vous avez mis un mauvais pinard, vous avez plein d'œnologues professionnels qui tombent par terre parce qu'on découvre la supercherie. C'est un petit peu la même chose parfois. On n'a pas encore lu un livre, mais il sera obligatoirement bon, puisque c'est machin qui l'écrit, ou mauvais, puisque c'est Bidule qui l'écrit.
À la phrase, à cette accusation hein, qu'on va encore vous faire, le procès maintenant est récurrent, donc je sais que vous vous en rigolez, on va encore dire ça y est, on ferait plus que réac, on ferait fait le jeu de l'extrême droite. Vous opposez la phrase de Camus, j'aimerais qu'on la cite, on ne décide pas de la vérité, écrivait Albert Camus, on ne décide pas de la vérité d'une pensée, selon qu'elle est à droite ou à gauche, et encore moins, selon ce que la droite et la gauche décident d'en faire.
J'ai fait ce livre sur Camus, là, et... j'ai relu ce que j'avais lu et puis lu ce que je n'avais pas lu. J'ai lu les 4 volumes de Pléiade plus bas la main. Et quand je suis tombé sur cette phrase, j'ai été en arrêt, comme un chien de chasse, quoi. Avec ma plume, en me disant, s'il a raison, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis dit, s'il a raison, et je pense qu'il a raison, alors ça change ma vie. Ça change vraiment ma vie. Parce que le problème n'est plus de savoir si... je ne sais pas, tel journal va en dire du bien de ce livre, ou si telle radio m'invitera parce que je serai bankable chez eux. Mais je me dis, la vérité, c'est plus important.
Non, mais attendez.
La justice, c'est plus intéressant.
Je crois que les radios s'en foutent un peu de savoir si vous êtes bankable. La réalité, c'est
des moments où vous avez été invité, des moments où vous l'êtes
non,
plus.
Non, attendez,
c'est quand
Michel.
Même étonnant de ne plus l'être.
Michel, voilà. Je vous adore, Michel. Mais là, on tombe dans un délire paranoïaque, mais qui est énorme.
On peut faire de la sociologie.
Mais je vous assure, votre livre nous plaît, on vous invite. Votre livre tombe en même temps qu'un autre livre formidable et il n'y a pas de place pour deux. On vous invitera la prochaine fois.
Je ne parle pas de vous.
Par ailleurs, vous en sortez
deux. Je suis là. Donc, non, plus que ça, parfois.
Oui, 3 ou 4, oui, c'est vrai. Oui.
Donc, ça vous faudrait des raisons supplémentaires de m'inviter quand vous ne m'invitez pas. Vous êtes plus encore dans le temps, mais ce n'est pas à vous que je le dis. Je dis simplement que c'est normal. Je n'en fais pas une affaire.
Je parle pas pour moi, mais vous savez très bien que les invitations fonctionnent plus comme ça.
Mais c'est normal. Enfin, je ne vais pas dire qui, quoi, comment, etc. Mais j'ai assez de sociologie en tête pour pouvoir tenir les propos que je tiens. Je ne vais pas accabler tel ou tel télé, tel ou tel radio. Mais c'est normal. C'est un combat idéologique. C'est normal. Je vous dis, il y a plusieurs façons de tuer des livres ou des auteurs. C'est parfois de n'en pas parler. C'est parfois dans le choix de dire ben celui-là, on laisse de côté, on va plutôt promouvoir celui-là. C'est normal. Je n'ai rien contre ça. Je fais une littérature de combat. Il y a des gens qui me combattent. Je ne vais pas faire le malin en disant ils ne devraient pas, ils me font de la peine, ils sont méchants. Pas du tout. C'est le jeu.
Ne passons pas à côté d'Otto Daffé aux presses de la Cité, de Michel Onfray, Colm McCann. Vous avez entendu, vous.
Yes, I think this is completely fascinating.
C'est tellement fascinant. Very short. Je veux dire quelque chose de bref.
The book wins.
Le livre gagne finalement.
And I think time wins.
Et le temps gagne. Si le livre est bon, eh bien, il passera à l'épreuve du temps. Il émergera. Il sortira. Bien sûr, c'est important d'avoir de la publicité. Et en tant que journaliste moi-même, d'une famille de journalistes, je crois au pouvoir du journalisme. Le bon journalisme est aussi puissant que la bonne poésie, aussi puissant que la bonne philosophie, aussi puissant qu'un bon roman. Mais finalement, la seule chose qui est importante, c'est le bon mot au bon endroit, au bon moment. qui nous brise, ou brise notre cœur, ou nous fend notre cœur, qui raconte une histoire que nous ne connaissions pas précédemment. La littérature est de l'information, ça reste de l'information, c'est important. Mais je crois que les livres passeront l'épreuve du temps, s'ils sont bons.
Et ils sont bons, ceux dont vous parlez. Je vais même vous faire une confidence, Michel Onfray est sans doute l'un des seuls philosophes qui sait vraiment écrire comme un romancier, comme un écrivain, et ça, qu'est-ce que c'est agréable à lire. Que seraient-ils d'ailleurs les livres et que serait la lecture sans les librairies ?
C'est un peu faux quand même. C'est un peu faux.
Quoi ?
Ben, y a toute une école, pourtant idéologiquement, c'est pas mon bord, mais je veux dire, Bernard-Henri Lévy, Luc Ferry, Comte Sponville sont des gens qui écrivent un français élégant et c'est une autre façon de faire de la philosophie aujourd'hui.
Mais j'ai encore le droit d'avoir un avis sur ce que je lis ou pas ?
Oui, oui.
Il est génial, mon frère.
Non, mais bien sûr. Mais je vous dis que je ne suis pas le seul ou l'un des rares, que c'est même plutôt convenu maintenant.
Bah moi, je suis pas d'accord.
Clément Rosset, par exemple, écrivait une belle langue française. Michel Serres, Robert Misrahi, qui sont des philosophes...
C'est quand même compliqué. Quand on vous engueule, vous n'êtes pas content, ce qui est normal, mais quand on vous fait un compliment, vous n'êtes pas content non plus.
C'est la vérité qui m'intéresse dans cette aventure, ce n'est pas ce qu'on dit de moi, c'est la vérité. Je pense que factuellement, il y a une
nouvelle génération... Donc vous avez la vérité, quoi.
Non, je dis factuellement qu'une nouvelle génération... Ben, donnez-moi tort. Et quand je vous dis qu'une nouvelle génération de philosophes...
Sur ce point, je vous donne tort. Vous écrivez bien, c'est un compliment.
Mais vous avez
je vous donne tort quand vous dites que vous êtes...
Non, je n'ai pas dit que j'écrivais mal. Vous avez dit que j'étais l'un des seuls à... Je vous dis, je ne suis pas l'un des seuls.
J'ai le droit de le penser.
Mais bien sûr.
Ah bah très bien.
J'ai juste le droit de
le penser. Ça m'arrange. Donc je le pense, mais je le redis. Onfray écrit bien. Voilà. Et il est l'un des seuls. Ou l'un des rares. Bon. On va faire un tour en librairie, Michel ?
Volontiers.
On va dans le réel. Parce que parler de littérature, parler de philosophie, sans avoir le lieu où on peut aller trouver de la littérature, de la philosophie, c'est impossible. Donc, comme chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'une librairie. Allez, Nejoua Benalal est libraire à Aix-en-Provence. Et alors, elle anime depuis son ouverture il y a tout juste un an, c'est-à-dire entre les deux confinements, une librairie à l'hôtel Boyer d'Aiguille. Et vous allez voir qu'elle croit au pouvoir des livres, très fortement. C'est Inès de la Motte-Saint-Pierre qui est partie la rencontrer.
La littérature m'a sauvée parce qu'elle m'a permis d'être la femme que je suis. J'ai grandi dans le Maroc des années 70. La liberté d'expression n'existait pas. Dans une société machiste et violente, la littérature m'a permis d'être une femme libre, de choisir la place que je voulais occuper dans une société et de choisir d'être libraire. Les livres, ce sont des fenêtres ouvertes sur le monde qui permettent d'apprendre, de comprendre, de réfléchir, de questionner, de décider. Notre métier, c'est être un passeur. Passeur d'idées, passeur de vie, passeur de liberté. Le livre jubilatoire, c'est Le Baron Perché d'Italo Calvino. L'histoire est extravagante de ce gamin de 12 ans qui décide un jour de s'installer dans un arbre et de ne plus en descendre pour protester contre ses parents et se libérer des contraintes sociales. C'est ce que j'aime en littérature, c'est ces personnages qui décident de leur vie et qui résistent d'une façon ou d'une autre. Une chambre à soi est un livre très important dans ma vie parce que le sujet principal traite de la place des femmes et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu accéder à l'éducation. Il y a un siècle, elle pose cette question, pourquoi un sexe est-il si prospère et un autre si pauvre ? Et cette question est encore d'actualité. Le livre bouleversant, c'est « Des hommes » de Laurent Mauvignier. Laurent Mauvignier nous raconte l'histoire de ces jeunes appelés en Algérie. C'est un livre sur la culpabilité, sur la honte, sur l'incompréhension de la guerre, sur le traumatisme. Ce qui est extraordinaire chez Laurent Mauvignier, c'est cette capacité à maintenir le lecteur à distance et à ne porter absolument aucun jugement. Ma claque, c'est Banjo. Marseille, l'errance, la vie au jour le jour, la misère, l'exclusion des Noirs, mais aussi la musique, l'amitié, la débrouillardise, la fraternité. C'est un livre remarquable qui a inspiré les écrivains de la négritude, Aimé Césaire, Senghor. C'est un livre époustouflant.
Et on reste du côté des livres époustouflants et du pouvoir de la littérature, toujours en compagnie de Lydie Salver, Michel Onfray, Colm McCann et Mohamed Bougarsar. Alors voici une autre forme d'autodafé, en réalité, une autre forme de procès médiatique raconté par Mohamed Bougarsar dans un roman absolument fascinant. la plus secrète mémoire des hommes, illumine cette rentrée littéraire. C'est aux éditions Philippe Ray. Saviez-vous qu'en 1938 est paru un livre mythique, Le labyrinthe de l'inhumain, de l'écrivain sénégalais Tessé Eliman. Eliman, livre fondateur, qui a valu à son auteur, Eliman donc, d'être surnommé le Rimbaud nègre. Et puis soudain, eh ben, tout s'arrête. La critique cloue Eliman au pilori, en révélant notamment des plagiats. La maison d'édition doit retirer le livre de la vente, fermer ses portes, et on perd définitivement la trace de cet écrivain d'un seul livre, écrivain de génie, Eliman. Aujourd'hui, 2021, un jeune écrivain sénégalais décide de retrouver le mystérieux Eliman, et c'est le début d'une quête labyrinthique qui vous entraînera de Paris à Buenos Aires, en passant par Dakar ou Amsterdam, à l'ombre de la colonisation, de la Première Guerre mondiale et de la Shoah. Le résultat, c'est un grand roman d'aventure, une réflexion remarquable aussi sur tout ce dont nous venons de parler, en fait, le rôle de la littérature. Mohamed Bougarsar, né à Dakar, disais-je tout à l'heure, et qui vit désormais en France. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, l'histoire de ce livre, à la fois culte et maudit.
Alors, il y a déjà une profonde fascination pour les livres maudits, c'est-à-dire pour la légende des livres noirs, pour le coup. Et j'ai trouvé dans la figure de l'écrivain malien Yambo Logem, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais que, dont je recommande la lecture à tout le monde.
Yambo Logem, pardon, il faut le rappeler. Alors, prix Renaudot 1968,
prix Renaudot 1968, qui a, pour son premier roman, il a 28 ans, le roman s'intitule « Le devoir de violence ». Au seuil, il obtient un énorme succès, et puis quelques années plus tard, on découvre des emprunts, des plagiats, une composition un peu ambiguë dans « Le devoir de violence » et Yambo Logem est détruit par la critique, il est ostracisé, on l'accuse de tous les maux, il y a des procès qui lui sont faits. Et après quelques années où il essaie de se défendre, il se retire et rentre chez lui au Mali et s'enferme dans un silence de 50 ans dont ne le sortira malheureusement que sa mort en 2017.
C'est quand même incroyable, pardon, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que est-ce que c'est un auto-da-fé, au sens où Michel Onfray en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette affaire de plagiat qui est révélée, dont on découvrira que c'était effectivement des emprunts un peu à Schwarzbart, c'est ça?
L'histoire est un peu compliquée, mais ce sont des emprunts à Schwarzbart, à Graham Greene, à Tacite, au Coran, voilà, à la Bible, à Maupassant, à Rimbaud.
Tout mais qui crée quand même une œuvre originale.
Qu'il crée, mais voilà, qu'il recrée. Ce ne sont pas des plagiats littéraux, ou s'ils sont littéraux, il en sort toujours quelque chose de beaucoup, parfois de beaucoup plus intéressant. Donc on est peut-être devant le cas du plagiaire qui est beaucoup plus doué que ceux qu'il plagie en ce qui concerne Yambo Logem. Mais donc c'est à partir de cette histoire-là que j'ai écrit, que j'ai essayé d'écrire ce roman, parce que j'ai trouvé dans l'histoire de Yambo Logem un début qui peut être intéressant. Mais le roman le dépasse son histoire, et j'essaie de m'intéresser à des questions beaucoup plus globales, beaucoup plus générales, mais plus précises aussi sur le sens de la littérature, de l'engagement littéraire, de la réception d'un livre selon la personne qui l'écrit.
Selon sa couleur de peau,
selon
aussi,
sa couleur de
diriez-vous
peau. Selon sa couleur de peau.
Il y a beaucoup d'humour dans votre livre, notamment sur ce passage-là, c'est-à-dire sur la façon dont aujourd'hui un jeune écrivain sénégalais peut être considéré par la critique blanche, dites-vous, comme le produit de l'année, en quelque sorte.
Cela arrive, là je n'invente rien, ça arrive tout le temps, que l'on accole, qu'on mette comme ça des étiquettes sur des personnes selon quelque chose qu'on choisit dans leur personnalité et qui fera leur spécificité. C'est le premier roman de l'année, c'est le jeune perdreau de l'année, c'est le jeune nouveau de l'année, ou au contraire, c'est celui qui... C'est le vieil écrivain sur le retour. Voilà, tout un ensemble d'étiquettes comme ça qui s'intéressent à tout, sauf à ce qui est intéressant, qui est vraiment, comme disait Colum McCann tout à l'heure, l'œuvre, le livre et le sens que ça a, qui est le plus important. Donc, d'une certaine manière, je me demande aussi ce qui est le plus important. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a autour des livres, ce qu'on en dit, ou ce que les livres disent eux-mêmes et ce qu'ils portent comme vérité, comme réflexion, comme engagement? C'est aussi ça, le sens.
Ou l'écrivain, ou l'auteur des livres.
Ou l'auteur des livres.
Bon, alors, qu'est-ce qui est le plus important? Je sais, vous nous avez dit, vous lisez pour avoir plus de questions, pour poser encore plus de questions. Enfin, là, vous pourriez peut-être me donner une réponse.
Eh bien, je crois qu'à la fin des fins, c'est le livre qui demeure. Je pense que c'est l'œuvre qui doit l'emporter. Et s'il y a toute une tradition qui est parfois un peu agaçante, littéraire, où l'on voit des écrivains qui essaient de se cacher ou de s'anéantir comme ça dans leur œuvre, je crois que le plus important, c'est vraiment ce que le texte va garder, ce que le texte va dire, comment il va traverser les âges. Pour moi, c'est vraiment, je suis résolument du côté des œuvres, parce que je crois que les écrivains, en réalité, viennent et passent, même les plus grands, même les plus géniaux, et c'est finalement à leur œuvre qu'ils se dédient, et c'est vraiment ça qui me semble le plus important.
Et pour ça, il faudrait que l'œuvre soit disponible. Alors, on a vu tout à l'heure avec Michel Onfray que parfois, il y a des œuvres en pièces détachées, hein, ça s'appelle les versions abrégées. Dans le livre de Mohamed, Bougarsar, c'est encore mieux que ça, c'est un livre qui n'existe plus. C'est un livre qui a été retiré de la vente. C'est un livre qu'on se passe comme ça, si on a la chance d'en avoir gardé un exemplaire depuis 1938. Et alors, un exemplaire atterrit entre les mains d'un jeune type, il faut que vous nous présentiez, il s'appelle Diegane, jeune écrivain sénégalais, un peu désinvolte, qui s'oublie entre les poitrines chaleureuses et accueillantes de romancières un peu plus âgées que lui, dont il collectionne... Oui. Les charmes.
Je tiens à dire que tout cela n'a rien d'autobiographique.
Je vous ai pas posé la question. Hein.
Oui, mais je sens derrière, c'est que c'est une tentation. Alors oui, ce jeune personnage, Diegane, essaie de trouver sa voie littéraire, mais aussi dans la vie. Il se demande s'il va s'engager. Dans ce sens-là, c'est toute la dimension peut-être initiatique du livre. Il se demande pourquoi écrire, qui va l'aider, qu'est-ce qu'il faut écrire. Bref, tout l'ensemble des questions que se pose un jeune écrivain qui veut se lancer. Et il trouve dans une femme, une romancière sénégalaise comme lui, mais qui a rompu les liens avec le Sénégal.
C'est l'ange noir de la littérature sénégalaise.
C'est l'ange noir de la littérature sénégalaise. Ouais. C'est le spectre un peu qui hante la mauvaise conscience de la littérature sénégalaise, qui devient, au sens littéral, sa maîtresse, c'est-à-dire celle qui lui enseigne la vérité, qui le met sur le chemin de la vérité, mais qui le met surtout sur le chemin de ce livre qu'il cherche, qui est donc cet exemplaire rare du labyrinthe de l'Unuma. Et c'est cette femme, finalement, qui, dans certaines circonstances que je ne raconte pas, le met sur la piste de ce livre.
On ne va pas raconter les circonstances, mais enfin, si je vous ai bien lu, ce n'est pas que dans le sens littéral qu'elle devient sa maîtresse.
Oui, mais enfin, bon, on est quand même dans le ciel des idées, donc regardons.
C'est très difficile de donner des indices parce qu'il y a un vrai suspense. Donc je ne dévoilerai rien de l'intrigue principale une fois que le jeune Diegane est parti sur les traces de ce mystérieux Eliman. Il va partir, il nous emmener jusqu'en Amérique du Sud, la traque des nazis dans les années 60-70 pendant la dictature des colonels en Argentine. On ira également croiser le Paris de l'occupation, l'ombre de la Shoah. Que vouliez-vous nous dire en racontant cette fresque qui s'étend sur près d'un siècle, les années 1880 aux années 1980?
Alors, je cherchais simplement à raconter la trajectoire d'un écrivain qui traverse en effet tout un siècle et qui traverse toutes les apocalypses de ce siècle, qu'il s'agisse bien sûr de la Shoah, mais qu'il s'agisse aussi de la colonisation, par exemple, sur le continent africain, et les raconter à travers vraiment le désir de littérature. Je pense que le fond de ce texte, son sujet, s'il faut en trouver un, même si je suis contre l'idée que les romans portent un sujet, en tout cas les grands textes n'ont jamais de sujet, quel est le sujet par exemple de Don Quichotte, on ne sait pas. Mais je crois que voilà, le fond de ce texte-là, ce serait vraiment la littérature comme perspective pour traverser la colonisation, pour traverser la Shoah, pour traverser la traque des nazis, pour traverser également la question de l'amour. Qu'est-ce que cela signifie, vivre, essayer d'aimer en écrivant à partir de la littérature? Que signifie penser à partir de la littérature? C'est la question que je me pose, parce que, en tout cas que je prête à tous ces personnages-là, mais de façon plus personnelle, c'est peut-être une question que je me pose aussi. Qu'est-ce que cela signifie, penser, vivre en écrivant à partir de la littérature et des textes?
Lydie Salvert, lectrice de La plus secrète mémoire des hommes.
Je l'ai déjà dit à Mohamed, j'ai adoré ce livre. Il est insolent, il est drôle, il est politique, il est poétique. Il est tout ce que j'aime, vraiment, vraiment.
Je vous remercie. Merci.
Elle n'a pas tort de dire insolent.
Il est très insolent.
Alors, on va donner un exemple de cette insolence. Par exemple, le mot « nègre » que vous employez, pas uniquement dans le contexte de 1938 et de la négritude de Senghor, et de Césaire, que l'on pourrait comprendre, mais aussi aujourd'hui. C'est pas innocent, ce choix. Pour quelle raison?
Ce n'est pas innocent parce que j'estime qu'évidemment, le mot a une histoire, mais précisément parce qu'on dit qu'il a une histoire, il faut voir le moment où, dans cette histoire, cela a désigné autre chose. Je me réfère là à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vient ici de temps en temps, qui est Laferrière, Dany Laferrière, notre maître à tous, dit...
Après Michel Onfray, c'est le plus souvent invité dans l'émission. Hein.
Voilà, donc que je salue. Mais Dany Laferrière dit que, par exemple, en Haïti, en créole haïtien, quand on dit « c'est un bon nègre », ça veut dire simplement « c'est un bon homme ». Disant cela, je m'empresse de dire que je ne condamne pas, par exemple, l'indignation qu'il peut y avoir sur le mot « nègre » aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait c'est indélicat de l'employer, c'est insultant, c'est irrespectueux, c'est raciste tout simplement. Mais je crois que parce que je suis dans un espace littéraire et parce que dans l'espace littéraire, je fais confiance à des personnages, je fais confiance à l'intelligence des lecteurs, qu'il y a toute une liberté que je m'autorise aussi, je peux employer ce mot-là sans être suspecté d'être un raciste ou je ne sais quoi d'autre. Et si je le suis, bon, enfin, je m'en sortirai très bien. Je ne pense pas que ce soit le plus grave, au fond. Le plus important, c'est toujours de savoir que les mots ont un sens, qu'ils ont une épaisseur, mais que nous avons aussi notre intelligence et que nous ne sommes pas simplement des êtres tout à fait gouvernés toujours par l'émotion ou la colère et qu'il est possible parfois, par l'insolence, par l'humour, par la dérision, par l'autodérision, de retourner un certain nombre de mots qui peuvent nous paraître et qui sont absolument infamants. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, réinjecter, même dans nos luttes politiques les plus qui nous tiennent le plus à cœur, il faut réintroduire de l'insolence, un peu de facétie, un peu de joie, un peu de plaisir, sans sacrifier, évidemment, à la culture et à la lecture des textes qui nous donnent la véritable charpente et la structure intellectuelle nécessaire.
Alors, c'est un texte qui est très charpenté, qui est très joyeux, qui est très jouissif également, très hédoniste, hein, votre roman, d'une certaine manière, sans occulter les côtés sombres, la part d'obscurité de chaque personnage. Colum McCann, aux États-Unis, ce mot qu'emploie Mohamed Bougarsar, ce mot nègre, n'est plus utilisé, et notamment par les Blancs. Il y a même une expression, on dit, de « n-word ». Si je le traduis en français, c'est pas terrible. C'est le mot « haine ». Commence bien, le mot « haine ». Que vous inspire cette façon de ne plus prononcer un mot?
It's a really difficult one.
C'est difficile, cette question. On utilisera le mot « haine » désormais. Je parlais avec ma fille et j'utilisais le mot parce que quelqu'un en ligne a dit « j'ai utilisé le mot dans un de mes livres et donc j'étais un raciste ». Comme dans le sens de Mohamed l'a bien souligné, c'est pas parce que vous utilisez le mot que vous utilisez la violence contenue dans ce mot. C'est tout simplement une description de la réalité du monde. Mais ma fille m'a dit « arrête la voiture. Ne dis plus jamais ce mot, même si tu cites quelqu'un. » Et c'était nouveau pour moi. Ça m'a choqué. Et je pense qu'elle avait raison. Et que je dois apprendre à ne plus le dire dans n'importe quel contexte. Certaines personnes pourront me dire que ce n'est pas bon, que c'est faux. Mais pour moi, personnellement, il faut que je l'écoute. Elle change les choses, il faut aller avec le temps. Et peut-être que dans 100 ans, on reviendra et on réutilisera ce mot de façon différente, joyeuse, et d'une autre manière. Et peut-être que ça sera condamné à jamais pour les choses extraordinairement moches qu'il signifie.
Votre livre, Mohamed Bougarsar, est un livre qui esquinte aussi la vision dont traditionnellement qu'on avait traditionnellement sur l'écrivain africain. Là, en l'occurrence, comme quelques-uns de vos grands prédécesseurs, vous racontez une Afrique violente, une Afrique des ténèbres, une Afrique compliquée. Quelle était votre intention? Revisiter, sans non plus devenir le porte-parole d'une culture blanche ou d'une histoire blanche? Comment vous situez-vous? Là, il y a un piège qu'il va falloir que vous déjouiez.
Alors, je crois que le livre est aussi une tentative de dire sortez finalement des caricatures des assignations, des attentes préformées que vous avez sur ce que serait, par exemple, un écrivain africain ou un village africain ou une vie africaine, parce que je ne suis pas dans une sorte de description exotisante. J'essaie d'aller surtout dans ce que les personnages vivent au plus profond d'eux-mêmes, pensent au plus profond d'eux-mêmes, pas parce qu'ils seraient spécifiquement africains ou spécifiquement noirs, mais parce qu'ils sont confrontés à de grandes questions, l'amour, l'angoisse de la mort, la transmission, qui sont celles de la condition humaine. Donc j'essaie de dire ça, j'essaie de dire sortez de ça, des attentes, des, etc. Et je le dis sans colère, surtout avec une forme, j'espère en tout cas, d'humour, et même quand je raille les attentes que l'on peut avoir sur ce que serait un écrivain africain, j'essaie de le dire de façon un peu humoristique.
Et je vous confirme, on rit beaucoup aussi en lisant ce livre qui glisse tout à coup de manière très imperceptible vers l'univers d'Edgar Allan Poe ou de Stephen King lorsque l'on découvre que tous les critiques littéraires qui en 1938, vos amis Michel Onfray, les critiques littéraires de 38 qui ont parlé du livre d'Eliman, savez-vous ce qui leur est arrivé? Tous sont morts mystérieusement en se suicidant.
C'est pour rien.
Pour une fois. C'est un livre, un roman d'une prodigieuse inventivité. Lisez La plus secrète mémoire des hommes et surtout, surtout, ne faites pas de Mohamed Bougarsar le nouveau locataire du fauteuil de jeune écrivain africain prometteur. Tombez pas dans le panneau. Donnez-lui, je sais pas moi, un prix, une reconnaissance et surtout un public. Pour ce qui est de la traduction, on s'en occupe avec Colomb. Voilà. À quoi sert la littérature? À être lu, quand même. Et puis, si possible, à voix haute. Et ensemble. Un mot maintenant pour vous parler de ce sujet qui, vous le savez, me tient énormément à cœur. Si on lisait à voix haute, c'est le nom du concours de lecture que je vous propose si vous êtes collégien, si vous êtes lycéen. C'est très simple. Vous choisissez un texte qui raconte celui ou celle que vous êtes. Vous le lisez à voix haute. Et vous le partagez avec nous à travers ce concours. Puis peut-être que vous vous retrouverez dans quelques temps parmi les 10 finalistes au mois de juin prochain. Les inscriptions seront bientôt ouvertes, dès la semaine prochaine. Mais vous pouvez lancer dès maintenant le projet dans votre classe. Parlez-en à vos profs. Puis si vous êtes élève et si vous êtes prof, eh bien, donnez l'exemple. Tiens, en parlant d'exemple, voici à quoi ça ressemble. Une finale de Si on lisait à voix haute, avec 3 extraits de lecture par 3 de nos finalistes de la saison dernière, Lubin, Gaspard et Colin. Regardez et surtout, écoutez.
Je suis tout blanc. C'est qu'il a neigé. La pointe percée est plâtrée. Le bleu est revenu. Il m'a semblé voir des alpinistes se dresser au sommet. Ils ont dû peiner dans les derniers mètres, avec cette neige qui recouvre la paroi. Ont-ils bivouaqué, accroché à la muraille? Je ne peux pas m'être trompé. Il y avait bien 3 silhouettes découpées sur le gros bloc en équilibre. Puis ils sont redescendus et ont disparu de mon champ de vision.
Ma prière. Voilà comment commence ma prière. J'aime que le matin blanc pèse à la vitre et l'on tue ici. J'aime qu'un enfant courant dans l'herbe haute vienne à cogner sa joue à mes paumes et l'on tue ici. J'aime qu'un homme se plaise à mes seins et que sa poitrine soit un bateau qui porte dans la nuit et l'on tue ici. J'aime qu'on bavarde à la porte du boulanger quand il n'y a d'autre souci que le bleu du ciel étendu sous la théorie des nuages, et l'on tue ici.
Le visage d'Albert est presque bleu. Ses tempes battent à une cadence inimaginable. On dirait que toutes les veines vont éclater. Il appelle Cécile. Il voudrait se retrouver entre ses jambes, serré à n'en plus pouvoir. Mais les traits de Cécile ne remontent pas jusqu'à lui. Comme si elle était trop loin pour lui parvenir. Et c'est ça qui lui fait le plus mal, de ne pas la voir à cet instant, qu'elle ne l'accompagne pas. Il n'y a que son nom, Cécile. Parce que le monde dans lequel il s'enfonce n'a plus de corps, que des mots.
et vous retrouvez toutes les informations sur le concours si on lisait à voix haute sur le site lumni.fr et sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Si vous vous posez la question comment dire le monde ou bien à quoi servent les livres que nous lisons, alors vous pouvez ouvrir tous les romans de Colm McCann. Depuis Les Saisons de la Nuit et jusqu'à Ed Peyrogone, ces questions hantent une œuvre couronnée aux États-Unis par le National Book Award, traduite dans 40 langues, œuvre que je considère personnellement, si je peux, hein, Michel, vous me dites ? D'accord. Comme une œuvre majeure dans la littérature contemporaine. C'est vrai, autant pour sa poésie, vous allez voir, extraordinaire, que pour son humanisme profond, parfois désespéré, quand il s'agit de donner la voix aux exclus, aux parias, aux désracinés. À Peyrogone sort ces jours-ci en poche, aux éditions 10-18, traduit par Clément Baude. C'est un prodige d'écriture, car ce roman est d'abord un kaléidoscope dans la forme. L'histoire de deux pères, l'un est israélien, l'autre est palestinien. Ils ont tous les deux perdu leur fille pendant le conflit, et contre toute probabilité, ils deviennent amis et tentent de mettre la force de leur chagrin au service de la paix. Vous avez appelé Colm McCann ce roman « À Peyrogone » et la forme que vous lui avez donnée est, me semble-t-il, totalement inédite. Elle est palpitante également. Elle permet d'aborder l'intime et la grande histoire, mais aussi la philo, la religion, la géographie, la musique, tout cela autour d'un conflit qui semble interminable. Qu'est-ce que c'est concrètement un « À Peyrogone » ?
Un apéragone,
c'est un polygone avec un nombre infini de côtés. Mais avant d'arriver à apéragone, à voix haute, la lecture à voix haute, je ne sais pas comment on le prononce correctement, cette idée de lire à voix haute, d'avoir des jeunes lire des livres, c'est fabuleux. Ça ne peut se produire qu'en France. J'aime les Français et j'aime l'engagement des Français auprès des livres. Imaginez une émission comme ça, à la télé, même en Irlande ou aux États-Unis. Et ce que vous faites, c'est que vous avez un accès aux jeunes. Je crois que 100 000 jeunes vont lire ces livres. Et le livre est devenu apparent à nouveau dans ce monde. Ce qui est très important, à l'époque où les gens pensent que le livre va disparaître ou peut disparaître, et ces jeunes disent quoi ? Ben non, ça ne va pas disparaître. On peut le lire et le lire à haute voix. Même si le livre disparaît, même si le roman disparaît, une chose ne disparaîtra jamais, et c'est l'histoire, les récits que nous devons raconter. Votre ami, mon ami Jim Harrison, a dit « La mort emportera beaucoup de choses ». Mais n'emportera pas nos récits. Et c'est fantastique ce qu'il a dit. Tout peut disparaître, mais le récit ne disparaîtra pas. Et c'est ce que j'essaie de faire avec Apeyrogone. C'est l'histoire de deux hommes qui vont traverser le monde, raconter leur histoire, l'histoire horrible, comment ils ont perdu leur fille. L'un d'Israël, l'autre de Palestine. Ils le font comme un acte de courage moral. Et ce livre est structuré de telle sorte que... Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Quand je les ai entendus me raconter leur histoire, je me suis rendu compte. Mon Dieu, Rami et Bassam racontent leur histoire parce qu'ils veulent garder leur fille vivante. Et leur récit maintient leur enfant en vie dans ce monde. Où est-ce que ça pourrait se produire dans l'histoire du monde ? Dans les mille et une nuits ? Et donc j'ai divisé ce livre en 1001 chapitres pour parler du pouvoir du récit et du fait de raconter l'histoire. À la fin, ce que Rami dit, ce que Bassam dit, ce que nous disons tous, c'est que le monde est fait d'énormément de choses. Les scientifiques nous disent que le monde est fait de quarks, d'atomes, de molécules. Mais nous serons d'accord pour dire que le monde est fait d'histoires, de récits. Et nous avons besoin de raconter nos histoires. J'ai une organisation aux États-Unis et en Afrique, et en partie d'Amérique latine, et bientôt en France, le Forum Narrative Forum, où des jeunes raconteront des récits aux autres. C'est incroyable ce qui se passe lorsqu'on entend l'histoire de quelqu'un d'autre. Et en fait, une histoire qu'on ne devrait pas entendre, en fait. En Israël et en Palestine, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées, et un côté ou l'autre, ou les deux côtés, disent « N'écoutez pas, Parce que lorsque, vous savez, Tahir Dajout, un Algérien qui a dit, ah, il est fabuleux, il dit, si vous parlez, vous mourrez. Si vous êtes silencieux, vous mourrez. Et donc, parle et meurs. En fait, nous devons raconter l'histoire de ce qui se passe dans le monde. C'est une des choses les plus importantes que nous puissions faire ensemble. Et c'est ce que fait Rami et Bassam dans Hypergone. Ils racontent leur histoire.
Ils existent véritablement, Bassam et Rami. Vous les avez rencontrés. Vous partez donc d'une histoire vraie, en réalité, jusqu'où eux-mêmes sont-ils confrontés à ce que vous racontez à un moment, c'est-à-dire à ces accusations, cet auto-da-fé, parce que ce qu'ils racontent après la mort de leur fille dérange, c'est-à-dire d'être traités de collabos dans leur propre communauté et d'être mis au banc intellectuel de leur communauté.
Yeah, I mean, if Bassam...
Si Bassam va à une école en Israël, les parents vont sortir et manifester et dire « Mais comment ce terroriste peut venir parler à nos enfants ?» Bassam a passé 7 ans en prison. Il était commandant d'une unité du Fatah. Il croit à un engagement pacifique désormais. Rami, on l'accuse d'être, entre autres, un traître à son peuple. Et ils ont le courage de leurs idées. Parce que, comme on l'a dit précédemment, l'histoire et le temps vont juger. Ils ont besoin de raconter l'histoire parce qu'ils la connaissent. Ils savent que l'histoire est vraie. Est-ce que c'est à la mode? Non. Est-ce que ça rend les gens en colère lorsqu'ils disent ces choses-là? Même la mention du mot « paix » dans certaines régions va vraiment enrager les gens. Mais ils ont décidé « non, nous devons en parler ». On n'a pas besoin de s'aimer, on n'a même pas besoin d'être d'accord l'un avec l'autre, mais on a besoin de se comprendre. Et la seule façon de se comprendre, c'est à travers le processus de raconter cette histoire. L'histoire, ça peut être une histoire d'amour, qui peut fendre le cœur, ça peut être aussi quelque chose qui nous embête, mais c'est la façon dont on engage le monde. Les molécules de monde sont les récits.
Il y a une chose que vous faites, et je crois bien que vous êtes l'un des rares, pour le coup, là aussi, à savoir le faire, c'est évoquer l'espoir, évoquer la paix, évoquer des pères qui perdent leurs enfants sans tomber dans ce qu'on appelle une littérature des bons sentiments. Comment, Colm McCann, procède-t-on pour essayer de faire avec ces sentiments une grande littérature ?
Yeah. I think this is very important. I think that
je crois que c'est très important. L'auteur doit marcher sur la corde raide. Il faut aller vraiment au bout. Kurt Vonnegut a dit, il faut sauter des falaises et développer nos ailes en tombant. Entreprendre quelque chose de très difficile. Les sentiments, mais pas de sentimentalité. Aller à la limite du sentiment, mais ne pas devenir sentimental. Ne pas devenir simple, parce que rien n'est simple. Particulièrement dans la simplicité. Et une des choses que Rami et Bassam font, c'est qu'ils disent qu'il faut apprendre à se connaître. Et ça devient incroyablement nuancé et en désordre. Mes 3 mots favoris en ce moment sont, après « je t'aime » par exemple, ou « une autre bière s'il vous plaît », c'est, non, sérieusement, après « je t'aime », je ne sais pas. Nous avons très peur de dire « je ne sais pas ». Et de plus en plus, c'est les gens qui disent « je ne sais pas » qui maintiennent les valeurs. Dans nos écoles, si les écoles qui sont de véritables héros peuvent apprendre la valeur du mot « je ne sais pas », des mots « je ne sais pas », le monde est compliqué, il faut en parler, et on sera plus engagé, et la vie sera meilleure et on sera plus heureux. Parce que je dis, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on est tellement certain de soi, on apporte une maladie au monde, le mal au monde, un poison, une étroitesse d'esprit lorsque le monde est étroit. Lorsque le monde est ouvert, comme il doit l'être, par la philosophie, la poésie, le journalisme, la littérature, c'est à ce moment-là qu'on devient meilleur. Et oui, on verra une vie meilleure.
Il y a une phrase qui m'a profondément touchée dans votre livre parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que l'on entend actuellement sur la douleur. « Nous devons apprendre à nous servir de notre douleur », écrit l'un des deux pères endeuillés. Non pas se poser donc en victime, non pas jouir de ce statut de victime pour parler de la paix et de l'espoir, mais se servir de la douleur. Ça devient, pour vos personnages, presque une ambition politique, en réalité, non ?
That's correct.
Tout à fait. Bassam, lorsqu'il rencontre le tueur de sa fille, il a dit « Je ne suis pas la victime ». Et ma fille non plus n'était pas la victime. C'est toi, l'assassin, qui est la victime ici. Un meurtrier, plutôt. Et il dit « Je ne deviendrai pas la victime de mes victimes ». Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend la réalité du monde, aussi dur qu'elle soit, tout le cynisme, toute la folie, toutes les difficultés, et dit « Ok, le monde est cynique, et ce n'est pas une révélation. Ce que je dois faire, moi, c'est m'en sortir et trouver une forme d'espoir. » Et c'est là qu'ils me disent, le premier jour où je les ai rencontrés, « Il faut réfréner le pouvoir de son deuil. » Je dis, oh là, ça c'est dur. Et c'est plein d'empathie. Ce n'est pas une notion tirée vraiment de la lune. Non, non. C'est quelque chose de musclé. C'est une idée fabuleuse. Et dans la difficulté, on trouve l'excellence. Et c'est pour ça que les lecteurs réagissent à Rami et Bassam, parce qu'ils sont compliqués. Ils disent des choses contradictoires aussi.
Et on n'est pas très loin non plus de l'esprit de Don Quichotte avec lequel nous avons ouvert cette émission. S'agit-il d'un idéalisme, de penser que je peux mettre mon chagrin et ma douleur au service d'une action ? S'agit-il au contraire d'une réalité ? Il y a une formule célèbre qui dit, et je la prends chez Michel Onfray, qui parfois la cite, qu'on peut être à la fois dans le pessimisme de l'intellect et l'optimisme de la volonté. Est-ce que vous adhérez à cette thèse de Gramsci ?
Oui, Gramsci, oui. Je suis un optimiste. Je suis un pessimiste de l'intellect et un optimiste de la volonté. Oui, c'est ça. Et j'aime cette idée. Regarde le monde parce qu'il est sombre, mais essayons de trouver quelque chose de lumineux là. Et Gramsci, cette notion, ce que beaucoup d'intellectuels voient à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs les plus âgés, quand je leur parle, ils me disent, et Aldous Huxley a dit cela à la toute fin de sa vie, j'ai étudié beaucoup de choses, la philosophie, la science, l'art, j'ai fait toutes ces choses-là, j'ai réfléchi à toutes ces choses merveilleuses, et finalement, la seule chose que je sais, c'est que nous devons être plus gentils les uns avec les autres.
Michel Onfray, qui avait signé un éloge de la gentillesse dans un très beau livre qui s'appelait « Le désir d'être un volcan », je m'en souviens encore, c'était en 1999.
C'est vrai.
La phrase de Gramsci, citée par Colm McCann, appliquée à ce conflit insolvable, racontée par un Irlandais qui est bien placé pour savoir ce qu'est un conflit qui dure, que vous inspire-t-elle ?
D'abord, de manière générale, je ne parle pas de Lydie parce que Lydie a fait plus un essai pour moi qu'un roman. Et j'ai aimé le ton qui est fictif, mais en même temps, c'est aussi un essai, il y a de la pensée, il y a de... Bon. Mais tous les deux, vous avez une espèce de littérature pure qui, moi, m'impressionne, quoi. Une capacité à la littérature, ce que Lydie sait faire aussi par ailleurs. Mais cette façon de... Je me posais la question, est-ce que ça part d'un réel ? Est-ce que vous avez fait quelque chose ? Et vous, est-ce que vous partez d'un réel pour en avoir fait quelque chose ? Cette façon de tordre le réel pour fabriquer de la fiction, je suis très admiratif de ça, parce que moi, je ne sais pas faire. Je ne lâche pas mon imaginaire ni mon imagination. C'est mon rapport un peu hystérique à la vérité, à la justice, à la justesse, à ce genre de choses. Ce que je crois être justice, justesse et vérité. Mais cette façon de prendre une histoire vraie, d'en faire quelque chose d'autre, et puis de faire quelque chose qui... Enfin, moi, c'est un prix Nobel, votre livre. Je trouve que vraiment, ça a une dimension planétaire.
Oui.
Et ça, je suis très admiratif. Je ne sais plus quelle était votre question, mais enfin, voilà ma réponse.
Je ne vais pas faire la réponse aux questions, de toute façon. C'est un livre qui, comme celui de Mohamed Bougarsar et comme celui de Lydie Salvert, pose la question de l'engagement bien sûr du lecteur, évidemment, mais aussi de l'engagement de l'écrivain. Vous reposez sans cesse à travers vos romans cette question, à quoi ça sert d'écrire ? À quoi sert la littérature ? À quoi ça sert si je ne peux pas un tout petit peu changer le monde ou me changer moi. Qu'est-ce que vous pensez quand vous écrivez? Quel sens donnez-vous au mot engagement? Mot très lourd en France, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Michel.
You know, Rumi said,
Rami dit, in the book,
yesterday,
hier,
I was clever,
j'étais intelligent et j'essayais de changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage parce que je tente de me changer moi. Ce lieu où la littérature peut pénétrer et non pas changer les gens, parce que je pense que... Comment dire? Ce n'est pas vrai. La littérature ne change pas. Ce sont les gens qui se changent.
Lydie Salver, l'engagement, que représente-t-il pour vous? Dans l'engagement, il y a ce que l'on gage.
Ce que l'on met en gage de soi, bien sûr. Alors, engagement dans le politique, mais à la condition qu'il s'associe au poétique.
Au poétique.
Mais absolument, mais absolument.
C'est-à-dire que vous récusez cette séparation très française...
Sartre, le coupable de cette séparation.
Alors, regardez, j'en vois un qui sourit quand on lui dit Sartre coupable.
Non. Qu'est-ce que la littérature?
Ben oui, non, mais c'est vrai que là-dessus... Ouais.
Sartre dit aux écrivains, la littérature combative du sens, la littérature résistante, aux poètes, le plaisir de la langue... du style, du rythme, de la sonorité. Il fait cette séparation qui a eu une influence redoutable en France, parce qu'on n'osait plus dire qu'on était engagé, parce qu'on avait l'impression que c'était renoncer précisément à tout le poétique. Or, il me semble que le miracle a lieu quand les deux, comme chez vous, évidemment, chez vous deux, le poétique et le politique sont indissociables, et l'un servant l'autre, et l'autre l'un, évidemment.
Vous citez, page 190, Lydie Salver, William Faulkner.
Oui, j'ai oublié.
Ah ben, je vais vous le rappeler. Et puis je pense que beaucoup vont s'en souvenir, tellement la phrase est belle. Écrire, écrit Faulkner, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit, en pleine forêt. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre.
Oui, c'est magnifique.
Apey Rogon, Colm McCann, c'est aux éditions Belfond pour le grand format, et ça sort en poche chez 10-18, c'est en poche, donc vous n'avez plus d'excuses, précipitez-vous sur ce roman de Colm McCann, traduit par Clément Baude. Juste avant de refermer cette grande librairie, une question. Hey, j'aime bien les réponses, hein. Je vous assure, Mohamed Bougarsar, vous qui préférez poser les questions, en voici une très simple, tiens. Et si vous complétiez la phrase suivante? Une vie sans littérature, c'est... Lydie Salver.
C'est la mort.
Colm McCann.
I'm going to say exactly...
Je dirais la même chose.
Mohamed Bougarsar.
C'est une vie de réponse, ce qui est terrible.
C'est une vie qui laisse toute la place à la philosophie.
Ah non.
Ah si. C'est votre jeu.
Mais que serait la philosophie sans un tout petit peu de littérature?
Pas du tout envie d'un monde sans littérature, ça. Ouais. C'est pas du tout.
Ah.
Non. Ah non.
Élargissez votre horizon, lisez. Voilà, merci infiniment. Colm McCann, Lydie Salver, Michel Onfray, Mohamed Bougarsar. Je vous rappelle que tous les livres dont nous avons parlé ce soir sont à gagner si vous vous branchez, allez maintenant sur les fameux réseaux sociaux de la grande librairie et que vous répondez à la question qui va vous être posée. Et vous repartez avec les livres de nos invités. La semaine prochaine, tiens, la semaine prochaine, ben on va partir justement aux États-Unis, à New York. La grande librairie vous offre une spéciale écrivain new-yorkais. Vous retrouverez Patti Smith, James McBride, Nicole Krause et puis deux, trois révélations de cette rentrée littéraire. Je ne vous en dis pas davantage. D'ici là, tous les jours, la petite librairie pour vous donner encore envie de lire. On n'a pas parlé des éditions, ah ben si, du Quichotte, hein, qu'on peut lire. Donc on a dit Traduction Schulman, très important. Et puis, ben voilà, tous les livres à retrouver donc, sur nos réseaux. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à mercredi prochain, toujours sur France 5. Merci, bonne soirée. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.